Le mal, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, est quelque chose de mystérieux et douloureux. J'en parle souvent parce que c'est l'un des grands thèmes des Écritures. Quand il était sur terre, Jésus n'a pas du tout évité d'en parler, et pour cause. Il est mort à cause du mal et pour le vaincre. Mais avant qu'il ne remporte définitivement cette victoire, dans un dernier sursaut, Dieu permettra un règne suprême à tout ce qui est malfaisant et destructeur. Je continue de lire dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Il lui fut même permis, à la bête, de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Ici encore, on a l'expression « il fut permis à la bête » qui nous rappelle la souveraineté de Dieu. Il est vrai que, comme le prophétise Daniel, l'Antichrist dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. Ce sera par sa puissance militaire et les nations seront obligées de se soumettre à lui, mais en grinçant des dents. Ce sera l'absence de guerre, mais pas du tout la paix. Vers le milieu de la tribulation, l'Antichrist rompt l'alliance qu'il a établie avec Israël et commet l'abominable profanation dans le temple de Jérusalem où il se proclamera Dieu. Daniel, Jésus et Paul y font allusion. Après ce sacrilège, il pourchassera comme du vulgaire gibier tous ceux et celles qui refusent de l'adorer, et plus précisément les croyants et boucs mourront martyrs. Tous les pays coopéreront plus ou moins à cette chasse à l'homme, mais pas tous de gaieté de cœur. Le succès des persécutions de la bête est prophétisé par Daniel qui écrit « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint. » Elle remportait la victoire sur eux. Pendant l'Antiquité, le lieu d'exécution capitale à Rome s'appelle la Roche Tarpéienne. Et apparemment, c'est ce que subiront beaucoup de croyants. Mais ce n'est pas parce que ce supplice est prophétisé par Daniel qu'il devient rose-bonbon. Officiellement, l'Antichrist établit son autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. C'est la contrepartie des rachetés qui sont au ciel. En effet, l'apôtre Jean a déjà dit « Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. » Je continue le texte. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Entre Paul aux Philippiens et Jean dans l'Apocalypse, il est dit sept fois que les croyants ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Ce livre qui contient les noms des élus a été écrit avant que l'Éternel ne crée le ciel et la terre. Mais comme dans l'éternité, le temps n'existe pas, on peut dire sans se tromper que ce registre a toujours existé. Quand on réfléchit aux implications de cette vérité, ça remue les méninges et on a de quoi se sentir mal à l'aise. Dans sa souveraineté, Dieu choisit d'avance ceux qui partageront sa gloire dans le ciel. C'est aussi simple et brutal que cela. Sauf que l'autre côté de la pièce est que Dieu offre vraiment le salut à chaque être humain. Oui, mais ceux qui choisissent d'accepter Jésus-Christ découvrent ensuite que leur nom est dans le livre de vie. Oui, et seuls ceux qui sont inscrits dans ce registre céleste sont sauvés. On tourne en rond et on peut se demander, comme entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui vient en premier? La liberté de l'homme ou le choix souverain de Dieu. Comme ces deux composantes appartiennent à des niveaux de logique différents, la réponse est hors de notre champ de raisonnement et de compréhension. Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit que l'Antichrist usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Mais contrairement aux non-croyants, les élus ne sont pas trompés par l'Antichrist et ne l'adorent évidemment pas. Mais pour ces raisons, ils sont persécutés et mis à mort sans pitié. Je continue le texte. « Que celui qui a des oreilles écoute. » Littéralement, « si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. » Cette déclaration apparaît 16 fois dans le Nouveau Testament, dont 8 fois dans le livre de l'Apocalypse, où elle est adressée 7 fois aux 7 églises d'Asie. À qui Jésus dit « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Ici, par contre, l'exhortation n'est pas suivie par ce que l'Esprit dit aux églises. Cette mission semble prouver, une fois de plus, que l'ensemble des croyants qui constituent l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, n'est plus sur terre, mais a été enlevée avant le début de la tribulation. Elle se trouve donc désormais dans les cieux. Ici, que celui qui a des oreilles écoute sert d'introduction à un proverbe qui conclut le passage et qui est « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. » Ce proverbe contient un enseignement pratique destiné aux croyants qui vivent sous la botte de l'Antichrist quand il mènera ses campagnes d'extermination contre eux. Ils sont avertis d'avance qu'ils doivent accepter leur sort et dépendre de la providence divine. La première phrase, « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité », est une citation du prophète Jérémie. Ceux qui, dans le plan souverain de Dieu, sont destinés à être emprisonnés, probablement par des dirigeants de province ou de nation, qui ne partagent pas la brutalité expéditive de l'Antichrist, devront accepter leur nouvel état comme étant la volonté de Dieu sans chercher à se venger. Car si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Cette parole a déjà été dite par Jésus à l'apôtre Pierre. Dans l'Évangile, selon Matthieu, on lit « Remets ton épée en place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. » À cette occasion, Jésus confirme le principe de la peine de mort pour meurtre, principe énoncé dans le livre de la Genèse quand l'Éternel dit à Noé et à ses fils « Quant à votre sang, à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répondra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi, si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Ce principe s'applique autant à la police secrète de l'Antichrist qu'aux croyants qui veulent se venger. Ils doivent, au contraire, se conformer à l'exhortation de Pierre qui écrit dans sa première épître. « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. » C'est en agissant de la sorte que, écrit Jean, ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. En toutes circonstances, les croyants doivent donc suivre le modèle de Jésus-Christ que nous rapporte encore Pierre, qui dit du Seigneur. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. J'avoue qu'il est difficile d'accepter les paroles de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc et qui dit « Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. » Cependant, pendant la tribulation, les croyants doivent permettre à Satan et aux démons d'avoir leur heure de triomphe et la bête monstrueuse de l'abîme commettre ses pires atrocités. Nous arrivons maintenant à un nouveau tournant de la vision, car Jean va nous présenter une nouvelle bête, un maître de l'imposture, la bête qui monte de la terre, alias le faux prophète. Il fait partie de l'arsenal de Satan, dont les deux armes principales sont la tromperie et la violence. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean, Jésus l'appelle « père du mensonge et meurtrier ». Et dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit qu'il se déguise en ange de lumière et ses émissaires en serviteurs de ce qui est juste. Les faux enseignants, ceux qui répandent des mensonges concernant Dieu, l'au-delà et le salut, sont légions. De toutes les couleurs, il en est pour tous les goûts. Ils sont fréquents dans l'Ancien Testament, et certains sont même appelés par leur nom, comme Balaam. Dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. » Et parlant de la fin des temps, Jésus dit « De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. » Et dans sa première épître, Jean écrit « Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus au travers du monde. » Satan qui joue le rôle de faux père et l'Antichrist, qui est le faux Christ, et le faux prophète, qui est le faux Esprit de Dieu, forment ensemble la Trinité diabolique. L'Antichrist est avant tout un chef politique et militaire qui institue aussi le culte de sa personne au-dessus de toutes les religions, en se proclamant lui-même Dieu. C'est le faux prophète, son chef religieux, qui le fait valoir. Orateur de talent, il convainc les habitants de la terre que l'Antichrist est le seul espoir de salut pour l'humanité. Je continue maintenant de lire dans le chapitre 13. Ensuite, je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette autre bête est une personne au même titre que la première bête qui est la bête qui monte de la mer. Car ces bêtes finissent toutes deux leur carrière dans les temps de feu, ce qui n'aurait guère de sens s'il s'agissait d'idéologie, d'institution ou de gouvernement. Alors que la première bête est effrayante, féroce, sauvage et grotesque, un politicien opportuniste qui profite du chaos pour prendre le pouvoir, la seconde, l'autre bête, est issu de la société intellectuelle, civilisée, cultivée et ordonnée. C'est une figure connue, un grand chef religieux respecté dans le monde, quelqu'un de séduisant, persuasif, et qui apparaît doux comme un agneau, peut-être même le pape, mais en réalité, il est l'image même du loup déguisé, puisqu'il parle comme un dragon, ce qui est plutôt bizarre et inattendu pour un agneau. Je continue le texte. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Les deux bêtes sont des suppôts de Satan et marchent main dans la main. La seconde encourage les habitants de la terre à vénérer la première comme leur sauveur ressuscité. Une imposture et une idolâtrie absurde. Pourtant, le monde dans son ensemble gobe son mensonge tout cru. Je continue. Elle, la seconde bête, accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Ces signes sont de vrais miracles, tout comme ceux qu'ont fait les deux témoins descendus du ciel avant d'être assassinés. D'habitude, c'est l'Éternel qui fait tomber le feu du ciel, mais c'était aussi une spécialité de son prophète Élie, qui est probablement aussi l'un des deux témoins. Ici, c'est l'autre bête, la seconde, qui par la puissance du diable fait ses miracles. Le temps du verbe suggère qu'elle répète ce prodige. Et chaque fois, c'est bien sûr pour authentifier un message qu'elle prétend d'origine divine. Même si c'est très dérangeant, on est obligé de reconnaître que Satan possède une puissance de feu faramineuse, ce qui apparaît bien dans le livre de Job. De toute évidence, il possède des pouvoirs surnaturels depuis qu'il a été créé, et assez curieusement, il ne les a pas perdus après sa rébellion contre Dieu. Les prodiges spectaculaires accomplis par l'autre bête, la deuxième, lève tous les doutes qui ont pu subsister et convainc les derniers sceptiques que la première bête sortie de la mer est véritablement le Messie et le Sauveur du monde. Les pouvoirs des deux bêtes sont surprenants, mais ils sont prophétisés par Jésus, puis par l'apôtre Paul, qui dans sa seconde épître aux Thessaloniciens écrit « L'apparition de cet homme, l'Antichrist, se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Les incrédules, ceux qui ne veulent pas connaître la vérité, n'ont pas d'autre option que de croire aux mensonges. Ils acceptent donc, avec empressement et comme parole d'évangile, tout ce que dit le faux prophète. On a un exemple parlant de ce genre de tromperie diabolique dans le livre des Actes où Luc écrit. Depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Je continue le texte. Par les signes miraculeux qu'il lui fut donné à la seconde bête d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. C'est déjà la troisième fois que Jean mentionne la soi-disant résurrection de l'Antichrist, sans doute à cause de l'impact phénoménal qu'elle produit dans le monde. Seuls les véritables croyants ne sont pas dupes. Le verbe grec traduit par « égarer » signifie « errer » et a donné « planète » en français. À cause des malheurs épouvantables qui frappent la terre et ses habitants, ces derniers cherchent désespérément à comprendre et à leur échapper. Mais comme ils rejettent la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ils acceptent sans sourciller les mensonges distillés par le faux prophète. En effet, toujours dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit « Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. La seconde bête réussit à égarer les habitants de la terre. Elle parvient à les ensorceler et à les impliquer dans son projet idolâtre, exactement comme Jésus l'a prédit. Soutenu par le faux prophète, L'Antichrist érige alors une réplique de lui-même qui symbolise sa divinité et qui est l'objet d'un culte. Cette image est installée dans le temple de Jérusalem. Et bien sûr, il y en a un peu partout dans le monde qui sert de sanctuaire où on se rend pour lui rendre hommage. L'Antichrist lui-même vient périodiquement s'asseoir dans le temple pour recevoir l'adoration qui ne revient qu'à l'Éternel seul. Et quand il n'est pas présent, c'est son image qui est adorée. Je continue le texte. Il lui fut même donné, au faux prophète, d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Le mot pour animer signifie souffle, et non pas vie. Une distinction importante à faire. Le faux prophète anime l'idole, qui représente l'Antichrist afin de lui donner une apparence de vie. Aujourd'hui, on pratique la ventriloquie dans les temples païens orientaux pour faire parler les idoles et impressionner les fidèles. Ce que Jean relate pourrait être un démon qui parle ou une invention moderne, car avec les effets spéciaux de la robotique alliés à l'informatique, peut créer un tel subterfuge est facilement réalisable. Comme dans l'histoire de la statue de Nabucodonosor, que nous relate Daniel, ceux qui n'adorent pas la bête sont punis à mort. Bien entendu, ce sont essentiellement des juifs et des croyants qui sont aussi persécutés. Les martyrs que nous avons rencontrés précédemment proviennent de cette exécution sommaire. Je continue le texte. Elle, la deuxième bête, amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite et sur le front. Le mot traduit par signe signifie gravure. Il désigne les effigies ou les noms des empereurs gravés sur les pièces de monnaie romaine. Dans le monde antique, de telles marques sont monnaie courante. C'est le cas de le dire. Les esclaves, les soldats et les adeptes de certaines sectes religieuses sont aussi tatoués en signe d'appartenance à leur maître. Pour forcer les hommes à rendre un culte à la première bête. La seconde bête, c'est-à-dire le faux prophète, les oblige à porter une marque particulière comme signe d'allégeance. Plus loin, on apprend que les 144 000 juifs témoins portent, eux, le nom du Père et de l'Agneau. L'estampille que mentionne Jean est donc une parodie du sceau de Dieu qui marque les croyants. Comme on en dit parfois, le diable est le singe de Dieu.